Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de vous accompagner ce soir jusqu'à minuit dans la libre antenne d'Europe 1. J'espère que vous êtes prêts à entamer une nouvelle semaine ou que vous profitez bien de vos vacances. Sabine Marin revient demain pour une formule différente cet été. En effet, il n'y aura pas de libre antenne ces week-ends du mois d'août. Vous aurez rendez-vous du lundi au vendredi de 22h à minuit. L'émission reprendra son format habituel à la rentrée. En attendant de nous retrouver très bientôt, nous sommes ensemble pour échanger, partager vos moments de vie. 2 heures de direct où vous pouvez libérer la parole en toute quiétude, vous le savez, la libre antenne est votre émission. En cette période de troubles sanitaires, il est bien difficile de se projeter, d'anticiper, voire de construire. Partir en vacances, retourner au bureau, voyager, revoir ses proches, beaucoup de doutes nous gâchent ou bloquent nos envies et nos besoins. Mais alors, quelle clé comportementale choisir pour ouvrir le champ des possibles ? Je vous propose d'utiliser le lâcher-prise selon Démophile, évêque de Constantinople au IIe siècle, qui a écrit, je cite, « Je compare la vie aux cordes d'un instrument de musique qu'il faut tendre et relâcher pour qu'elle rende un son plus agréable. » Vous l'aurez compris, avec cette analogie pertinente, c'est à vous de faire le tri sur ce que vous acceptez de lâcher et le prix que vous êtes prêt à mettre pour conserver le reste. C'est à vous de décider pour retrouver de la sérénité et du bien-être. En attendant de mettre en application, appelez-nous au 3921 pour justement partager vos expériences, vos histoires de vie, vos coups de cœur, vos déceptions. Si vous souhaitez, comme toujours, participer à cette chaîne d'amitié qu'est la Libre Antenne par SMS, il vous suffit de composer le 73921 en commençant par le mot nuit ou par mail libreantenne@europe1.fr, sachant que vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur le site d'Europe 1 dès demain. Je regarde face à moi, Bastien est prêt, Kelvin également, ils vous attendent au standard du 3921 et moi j'ai le plaisir également de retrouver ou de trouver, Romain Leborgne qui est aux commandes et réalise l'émission ce soir. À tout de suite.
Venez vous confier à Sana Blanger sur Europe 1.
Et nous accueillons tout de suite notre premier auditeur et c'est Franck. Bonsoir Franck.
Bonsoir, bonsoir à vous et à tous vos auditeurs.
Merci.
Et j'appelle ce soir pour parler un peu de ma vie de solitude. Je viens d'avoir, il y a 2 mois, 60 ans, et j'ai passé ma vie tout seul, sans compagne. C'était voulu au départ, mais après c'est devenu subi.
Ah oui, c'était la question que j'allais vous poser.
Et là, j'ai eu un petit peu une colère rentrée. Parce que je me suis aperçu au fil des années que beaucoup de femmes, je ne dis pas toutes, hein, mais beaucoup de femmes allaient facilement vers des hommes violents, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je ne suis pas quelqu'un de violent. J'ai peut-être des défauts, mais ça, tout le monde en a.
Oui.
Mais je ne suis pas quelqu'un de violent, ni de... Je suis plutôt calme.
Oui.
Et je m'aperçois que les femmes vont plutôt vers des hommes violents, quoi. Donc, quand on parle de violence faite aux femmes, je me pose des questions. Je me dis, mais alors pourquoi, quand on est calme, on n'intéresse personne? Je ne comprends pas très bien. Il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris.
Eh bien, moi non plus, je ne comprends pas. Sur quel fait vous vous basez, Franck, pour faire ce constat-là, en disant que vous avez... Enfin, ce n'est même pas le sentiment. C'est presque, pour vous trancher, les femmes vont vers des hommes violents. Qu'est-ce qui vous est arrivé pour que vous ayez cette...
J'ai vu des femmes me laisser pour aller vers des hommes qui étaient plutôt violents, quoi.
Parce qu'elles vous ont appelé après ? Elles vous ont appelé après en vous disant, Franck, je me suis trompée, je veux revenir parce que l'homme que
non,
j'ai...
Non, non. Non. Non, et j'ai un ami qui habite à quelques dizaines de kilomètres de chez moi qui vit la même chose. C'est pareil, c'est quelqu'un de calme. Enfin, il est divorcé, lui. La différence, c'est qu'il est divorcé. Mais il ne retrouve plus de compagne alors que, en fait, c'est quelqu'un de débonnaire, quelqu'un de... pas violent, plutôt cultivé, enfin bon, je ne comprends pas non plus, c'est un autre exemple,
oui.
Et je ne comprends pas, et donc j'ai un petit peu une colère, un petit peu,
oui, c'est...
parce
oui.
que je me dis, mais je ne comprends pas, tout ça. Et puis en plus, quand on parle de violence faite aux femmes, c'est pas très subjectif, parce que la violence, je crois qu'on devrait parler de violence en général, parce que la violence, elle est dans l'humain, dans l'être humain, oui. Homme comme femme. Je crois qu'il y a des femmes qui sont violentes de manière différente, pas physiquement, mais on peut être violent par des paroles, par des comportements, Et donc, ce n'est pas le même genre de violence, mais on peut parler aussi de violence faite aux hommes. Je trouve que ce n'est pas très objectif de parler que de violence faite aux femmes, quoi.
Alors, il y a plusieurs grilles de lecture là, que j'entends. Dans un premier temps, vous me dites que vous voulez parler de votre solitude. Et là, je sens qu'on glisse légèrement et tout doucement vers la violence faite aux femmes, où en fait, vous dites, mais la violence, elle est partout. Maintenant, en sémantique, c'est vrai qu'on entend quand même plus parler de féminicide que d'homicide. Mais voilà, c'est aussi une vérité de la palisse. On ne peut pas non plus mettre un voile sur des choses qui sont réelles, à savoir qu'une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son compagnon. Maintenant, effectivement, pour les hommes, ça existe également. C'est un sujet qui est beaucoup plus tabou. D'autant qu'en plus, quand un homme arrive au commissariat, alors ça, pour l'avoir, je dirais, approché, parce que ça m'a intéressé, hein, la violence faite aux femmes, mais surtout le sujet de la violence tout court conjugale, c'est vrai que les hommes ont du mal, c'est beaucoup plus compliqué pour eux d'aller au commissariat ou à la gendarmerie pour dire « voilà, je suis victime de violence ». Donc ça, c'est aussi dans la nature de l'être humain, quand on est un homme, d'avoir cette difficulté à franchir le cap et de dire je suis victime de violences conjugales. Mais néanmoins, Franck, il y a quand même une réalité. Il y a les femmes, il y a quand même des féminicides. Voilà. Bon, maintenant, parlons plutôt de votre solitude, parce que forcément, sur ce sujet-là, je vous entends. J'entends ce que vous dites sur le fait que vous avez le sentiment. Non, même pas, je reprends. Vous pensez que les femmes vont vers des hommes violents? J'ai envie de vous dire, moi, en tant que femme, non. Voilà, si c'est la question, non. Personnellement, je n'irai pas vers un homme violent. Si vous êtes doux, j'irai plus vers vous, Franck, que vers un homme violent. D'accord ? Maintenant, ce qui peut être très intéressant, c'est de voir tous les deux, plutôt que d'être dans cette forme de colère, comme vous dites, ou de rancœur, de vous dire, mais voilà, moi, j'ai des choses à donner. J'ai des choses à apporter à vous, mesdames. Voyons plus vos qualités. Allons plus vers quelque chose de positif que de construire quelque chose qui est, mais voyez l'homme là-bas, bah lui, il est violent, moi, je suis bien, donc prenez-moi moi. Non, on ne va pas faire comme ça.
Oui,
d'accord,
je pense que vous voulez dire.
Bon, Franck, maintenant, ce qui m'intéresse, et ce qui nous intéresse certainement tous les auditeurs et les fidèles auditeurs, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous avez géré votre vie de célibat? Puisque c'est ça, hein, la solitude. Voilà. Pour quelle raison est-ce que jusqu'à 60 ans, tout s'est bien passé et puis que tout à coup, à 60 ans, vous vous êtes dit, aujourd'hui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un et que ça n'a pas marché. Donc on va d'abord s'intéresser aux 60 premières années. Expliquez-nous ce qui s'est passé pour vous, pour que vous soyez dans cette solitude totalement assumée.
Il y a déjà quelques années que je subis cette solitude. Bon, il y a eu le fait que j'ai déménagé plusieurs fois de changer de ville. J'ai habité Lyon, j'ai habité Nancy. Maintenant, je suis en Alsace. Mais à chaque fois que j'arrivais quelque part, j'essayais toujours d'aller vers des associations pour faire des connaissances.
D'accord.
Mais ça n'a jamais marché, ça n'a jamais abouti.
Est-ce que vous avez des amis?
Des amis, je veux dire que j'ai un ami quelque part, oui.
Et des amis femmes, est-ce que vous arrivez à nouer des liens, juste d'amitié, avec des femmes?
J'y arrive très difficilement et ça ne dure jamais longtemps.
Donc, juste en amitié, hein? Alors, selon
vous, amitié, oui.
Quelle est votre analyse? Comment est-ce que vous l'analysez, vous, Franck?
Je pense que c'est... On m'a dit un jour que c'était très difficile d'avoir des amis. Alors, je ne sais pas si c'est l'époque qui veut ça, ou je ne sais pas, les gens sont très renfermés sur... les choses modernes comme l'internet, la télé, ils sont renfermés sur la technologie et finalement ils s'ouvrent pas à l'extérieur, quoi. À une époque, j'habitais Nancy, je faisais partie d'une association et on me disait les gens ne viennent pas, ils ne sortent pas le soir, ils sont collés sur leurs ordinateurs, ils ne sortent pas, on a du mal à les faire sortir, les faire se rencontrer. Et je me suis toujours rappelé de cette réflexion. Et c'est vrai que pour se rencontrer, il faut sortir. Il faut aller dans des associations. Il faut aller là où on peut se rencontrer.
Absolument. Absolument. Et donc jusqu'à l'âge de 60 ans, donc vous avez fait plein de rencontres. Et est-ce que lorsque, voilà, il y avait ces connexions qui se faisaient, est-ce qu'il y a eu des gens, des femmes qui vous ont attiré, Franck ?
Oui, il y a eu des femmes qui m'ont attiré, mais c'était pas dans les deux sens, quoi, en fait. C'était unilatéral, quoi. Et moi, elle m'attirait, mais dans l'autre sens, apparemment, je les attirais pas, quoi.
Qu'est-ce qu'elle vous disait ? Qu'est-ce que vous aviez comme...
Justement, j'avais rien du tout. Elles ont coupé les ponts sans que je puisse savoir pour quelle raison.
À chaque fois, elles ont totalement disparu sans vous donner d'explication sur...
Oui, sans que je puisse avoir d'explication. Ce qui fait que ça a produit chez moi un questionnement.
Ben oui.
Où je me demandais pourquoi, tout simplement.
Je comprends, parce qu'effectivement, quand c'est une personne, bon, voilà, ça arrive, hein, et puis très souvent, c'est plus l'autre que soi, quand c'est une personne. Maintenant, quand ça arrive très souvent, c'est troublant. Donc, encore une fois, je vous repose la question. Votre autodiagnostic à vous, quel est-il sur, je parle bien, des 60 premières années ? Je ne parle pas de votre anniversaire qui a eu lieu il y a 2 mois, où là, il y a manifestement des clics, on va revenir dessus. Je parle de ces 60 années où vous avez assumé d'être seul.
Ben, j'ai assumé, oui, si on veut, c'est plutôt subi par obligation.
Alors, à quel moment est-ce que vous avez subi ? Est-ce que vous vous souvenez de...
Oui,
c'était quand ?
À partir de l'âge de 30-35 ans, quoi, j'ai subi. Avant, c'était plutôt volontaire, je ne cherchais pas particulièrement, quoi.
Voilà, alors, c'est ça qui m'intéresse. Pour quelle raison est-ce que vous ne recherchiez pas avant vos 30-35 ans ?
Parce que j'ai vécu une enfance difficile avec des parents qui se déchiraient continuellement, et la vision du couple, pour moi, était faussée.
Ok.
Bon, j'avais une vision du couple qui était pas une vision agréable du tout. Au contraire, bien au contraire. Donc, étant adolescent, je me disais, moi, je préférerais vivre seul, plutôt de revivre des choses comme ça dans un couple. Et jusqu'à l'âge de 30-35 ans, quoi. Mais j'ai commencé à me rendre compte à cet âge-là que la solitude était très difficile aussi. Et là, j'ai commencé à changer un petit peu d'attitude. Et là, je me suis mis en recherche, en fait, en recherche, si on veut. Enfin, j'étais plus ouvert à...
Plus ouvert, voilà.
Voilà.
Ouais. Alors, quelle image avez-vous du couple avant vos 30-35 ans? Clairement, vous nous avez dit, mes parents se déchiraient, manifestement, ça ne se
oui.
passait pas bien du tout. Donc, pour vous, s'il y avait un mot à mettre sur l'image du couple, ou donc une image, ce serait quoi?
Eh bien, à l'époque, je vous aurais dit que c'était une image désagréable, quelque chose de désagréable, quelque chose de difficile à vivre. Mais j'ai connu des couples depuis qui s'entendaient très bien. Donc je pense aussi que des couples qui s'entendent bien, ça peut exister aussi. Donc j'ai changé ma vision des choses à partir de l'âge de 30-35 ans, quoi. J'ai changé ma façon de voir les choses.
Est-ce qu'il y a un couple modèle dans votre entourage ou un couple, je dirais, dans ces cas-là, plutôt public, pour qui vous avez une tendresse particulière ou de l'admiration, vous dire, ben voilà, ça c'est un beau couple. De public
non,
dans votre entourage?
Pas vraiment. Et étant adolescent, j'ai vécu aussi une déception. C'est-à-dire que étant adolescent, je suis allé deux fois en Grande-Bretagne, comme dans une famille anglaise, quoi, c'était pour me perfectionner mon anglais.
Oui.
Et la première année, je ne m'étais pas bien rendu compte que ce couple-là se déchirait aussi. J'ai idéalisé un petit peu ces gens-là, comme un couple bien, quoi. Et la deuxième année, je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai du tout, que chacun avait sa vie de son côté, et il y avait aussi des déchirements, et j'ai été aussi très déçu une nouvelle fois, parce que je croyais que ce couple-là fonctionnait, en fait. Et en fait, je m'étais trompé, et je m'en suis rendu compte la deuxième année. Et là, j'ai eu une deuxième blessure, quoi, en fait.
D'accord. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire en sorte qu'un couple fonctionne, selon vous ?
Moi, je pense que pour qu'un couple fonctionne, il faut que chacun ait une certaine patience, parce qu'on a tous des défauts.
Oui.
Et il ne faut pas être trop dur avec les autres. C'est ce que j'ai appris dans la vie aussi. Pour essayer de garder des amis, de passer sur beaucoup de choses. Parce que moi, c'est pareil, je ne suis pas parfait non plus. Et certainement que je fais des choses qui ne sont pas bien. Et j'ai donc l'ami que je connais à Nancy depuis des années. Je suis certain qu'il y a des fois aussi, il passe sur certaines choses. Parce qu'autrement, on ne pourrait pas s'entendre. Quoi.
Mais personne ne pourrait s'entendre. En fait, vous avez complètement raison, Franck. Nous sommes des êtres imparfaits. Donc, je le dis tout le temps, la déception est dans l'ordre naturel des choses. Vous décevrez comme quelqu'un, comme ces personnes-là vous décevront, mais parce que nous ne sommes pas parfaits. Donc si déjà vous avez ça en tête, franchement, bravo. Et encore une fois, je suis moi-même même surprise que vous n'ayez pas plus d'amis que cela, ne serait-ce que des amis, puisque vous étiez dans des associations sur Lyon, Nancy et là en Alsace. Donc on peut imaginer quand même que vous ayez noué des liens et que vous les ayez entretenus et conservés, voyez ? Là, je vous entends, vous êtes très agréable. Bon, je ne suis pas d'accord avec vous sur ce que vous avez dit tout à l'heure, mais ce n'est pas parce qu'on est en désaccord que forcément c'est contradictoire ou pas, je dirais, pas en capacité de pouvoir créer des amitiés. Vous voyez, au contraire, quand on n'est pas d'accord, parfois, nous, les Français, on adore ça. On adore débattre. Donc, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est aussi de savoir qu'est-ce qui vous a empêché de créer votre couple idéal. Pour quelle raison ?
Justement, c'est une question que je me pose depuis longtemps et je n'ai pas la réponse.
Ah.
Je me demande depuis longtemps pourquoi moi je reste seul sur le bord du chemin, en quelque sorte, et que je ne trouve pas quelqu'un. C'est une question que je me pose depuis longtemps.
Oui, et malheureusement, ce n'est pas en 45 minutes que je vais pouvoir vous apporter une réponse parce que c'est beaucoup plus profond que ça. Et vous voyez, déjà en combien de minutes ? 22 minutes, on a déjà commencé un petit peu à trouver des pistes. Votre enfance, votre adolescence, ce couple où vous étiez qui vous a déçu, le fait que vous avez retenu uniquement le négatif des couples et pas le positif. Et le négatif, vous l'avez même, je dirais, vous avez démarré avec ça en nous disant « les femmes sont attirées par des hommes violents ». Donc, vous voyez tout de suite le négatif dans le couple et pas la possibilité de vraiment être un soutien, une complicité, du partage, de l'amitié, de l'amour, de la passion, des hauts, des bas, parce que, comme vous l'avez dit, nous ne sommes pas des êtres parfaits. Donc, ce puzzle, là, on est en train de trouver les pièces qui en dessinent les contours, mais toutes les pièces, c'est vous qui les avez. Elles ont plusieurs formes, elles ont plusieurs couleurs, elles ont plusieurs odeurs, elles ont plusieurs... Et c'est vraiment à vous, effectivement, de construire cette image et de vous dire que déjà, vous en êtes capable, puisque vous en avez envie. Donc c'est déjà un pas énorme, c'est extraordinaire d'en avoir envie. Vous voyez, vous me rappelez Angèle hier. Angèle qui redécouvre son corps, qui redécouvre ses émotions, qui redécouvre ses sentiments et on l'embrasse. Elle est en train de revivre. Et vous, c'est exactement la même chose, s'il vous plaît. Ne restez pas dans les ténèbres. Regardez et voyez la lumière qui est autour de vous. Elle est forte, elle est douce. Et je vous assure que si vous en avez envie, vous pouvez construire le couple que vous voulez. Et en fait, très souvent, si vous écoutez l'émission, je dis que quand on veut rencontrer la femme de ses rêves, il faut devenir l'homme de ses rêves.
Oui, mais enfin, vous savez, à 60 ans, c'est difficile parce que on a pris beaucoup d'habitudes de solitaire. Donc, c'est pas évident.
Avec moi, ça marche pas. Ça, c'est un prétexte. Quand on ne veut pas, on cherche des prétextes et quand on veut, on trouve des solutions.
Oui.
Ben oui. Le 8 mai, on arrête.
Oui.
Puis ça ne vous apporte rien.
Le 8 mai.
Le 8 mai, absolument.
Oui.
Si ce n'est renforcer vos angoisses, vos craintes. Non, non. Il y a énormément de qualités en vous. Donc commencez déjà par faire une introspection, Franck. Quelles sont vos qualités?
Oui.
Donc vous prenez une feuille de papier, un stylo ou alors un carnet, un joli carnet. Et vous commencez par ce que vous voulez, mes défauts, mes qualités, mes forces, ma valeur ajoutée. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Ce qu'on est en train de se dire là, surtout demain, vous réécouterez l'émission en podcast, parce que je suis en train de semer des petites graines qui vont pousser. Donc vous aurez le temps demain, après-demain, prenez le temps qu'il vous faut pour répondre à ces questions. Prenez le rythme et le temps qu'il vous faut, mais très important, donc mes qualités, mes défauts, mes forces, ma valeur ajoutée, mes valeurs ajoutées. Moi, j'entends beaucoup de douceur chez vous, même s'il y a de la colère rentrée, mais il y a beaucoup de douceur. Il y a certainement beaucoup de sensibilité aussi, parce que quand on grandit dans un foyer où il y a eu, je ne sais pas si c'était de la violence, mais en tout cas beaucoup de conflits, on se crée sa petite bulle et donc on développe une intelligence du cœur qu'on appelle la sensibilité. Donc vous êtes forcément sensible à ce qui vous entoure. Donc vous voyez, là déjà, je vous trouve déjà beaucoup de qualités.
Vous me rappelez quelqu'un qui m'avait dit il y a de nombreuses années, je crois qu'il devait avoir 25 ans, qui m'avait dit, parce que à l'époque j'avais craqué, j'avais de la dépression. Ce qui s'est renouvelé d'ailleurs depuis plusieurs fois, plusieurs reprises, et bien qui m'avait dit, vous êtes hypersensible, vous avez craqué, vous craquerez encore.
Ah oui.
Et cette personne ne s'est pas trompée, puisque ça m'est arrivé de craquer plusieurs fois et d'être hospitalisé, même pour dépression, pour des problèmes de nerfs et des problèmes de dépression. Et donc, elle m'avait trouvé cette personne hypersensible.
Oui. Ben, nous sommes deux, effectivement. Et la sensibilité, ça n'est pas une fragilité. Et c'est encore moins, être faible. Attention. On est fragilisé par quelque chose, ou par un événement, ou un moment, mais vous n'êtes absolument ni faible, ni fragile. Vous êtes sensible.
Oui.
Quel mal y a-t-il à être sensible à ce qui nous entoure?
C'est pas un mal, mais c'est quand même une faiblesse quelque part, parce que on prend tout, quand on est trop sensible, on prend tout, comme je n'arrive pas à trouver le mot, on prend tout directement et on a très mal, quoi, on en souffre. On souffre de cette sensibilité, hypersensibilité.
C'est parce que vous êtes trop, comme diraient les jeunes, vous n'êtes pas très, vous êtes trop sympa. Vous entrez vite en sympathie avec les gens. Donc il faut juste apprendre à se protéger. Entrer en sympathie, c'est ce qu'expliquait hier David, c'est chausser les mêmes chaussures que la personne en face et puis se rendre compte, une fois qu'on les a retirées, qu'elles ne sentent pas très bon.
Ouais.
Ça, c'est la sympathie qu'on confond souvent avec l'empathie. Parce que la sympathie, c'est sa capacité à pouvoir se mettre à la place de l'autre et non pas l'empathie, qui est juste comprendre l'émotion de l'autre. Et donc, en fait, ce que vous pouvez faire dans un premier temps pour rencontrer d'autres personnes, Franck, c'est de pratiquer l'empathie. Dans un premier temps, c'est comprendre les émotions des personnes que vous avez face à vous, parce que grâce à votre sensibilité, vous en êtes capable. Vous avez ce don-là. Quand on est sensible, on a ce don de pouvoir comprendre les émotions qui sont face à soi. Donc ça, c'est excellent, c'est un excellent facteur pour pouvoir se faire des amis et entretenir des liens. Donc, travaillez votre empathie. Et peut-être mettez un petit peu plus de côté votre sympathie qui vous oblige, vous, comportement refuge, à vous protéger par rapport à votre histoire.
Oui. Oui, j'entends ce que vous dites.
Donc, si vous êtes dans une association, que vous êtes encore dans une association, eh bien, puisque vous avez entendu ce que je viens de vous dire, qu'allez-vous mettre en application à partir de demain ou après-demain?
En ce moment, je suis assez isolé, car je ne fais plus partie d'association. J'ai laissé tomber il y a quelques années, il y a 2-3 ans, et je suis très isolé.
Voilà, alors ça, surtout pas. solitude et isolement ne sont absolument pas, c'est pas du tout la même chose. La solitude, parfois, on la provoque. Elle n'est pas subie. En revanche, l'isolement, là, c'est un vrai, c'est de la souffrance. Donc, s'il vous plaît, ressortez, Franck. Reprenez confiance en vous, en vos capacités, et ressortez et regardez le monde autour de vous.
Oui.
Je donnais l'image hier de l'escargot et je disais à Michel, notre premier auditeur, que j'embrasse, qu'il fallait qu'il sorte de sa coquille. Eh bien, vous, c'est pareil.
Oui.
Sortez de votre coquille. En plus, vous savez faire.
Oui.
Qu'est-ce que vous aimez dans la vie, Franck ?
Parce que j'aime bien dessiner. Et autrement, je suis j'aime beaucoup l'histoire et la géographie.
Et qu'est-ce qui vous ressource ?
Ce qui me ressource, c'est-à-dire ?
Ce qui vous ressource, c'est ce qui vous fait un bien fou, un endroit, une...
J'aime beaucoup écrire des lettres.
Ah, très bien, d'accord.
Et quand j'écris des lettres, c'est pas des lettres ordinaires, c'est des lettres avec des photos, des dessins. Enfin, quand j'écris, c'est pas seulement des mots, il y a tout, quoi. Et j'aime beaucoup la correspondance. Et justement, je manque de correspondants en général, parce que comme j'aime beaucoup écrire des lettres, et j'ai personne à qui écrire, en fait, et j'en souffre.
Une question qui vient d'arriver pour vous. Je souris parce que j'aime bien cette petite question qui est poil à gratter. J'aime bien les questions poil à gratter. Vous êtes prêt, Franck ?
Oui.
Vous êtes
oui.
prêt ? Vous êtes sûr ?
Oui.
Ok. Alors, elle vient de Sophia et elle vous dit « Il est peut-être aussi susceptible en plus d'être sensible. »
Susceptible peut-être. Peut-être.
Peut-être.
Peut-être, oui. Je pense, oui.
Est-ce que vous avez un exemple, une expérience à nous partager sur le fait que peut-être, effectivement, vous pourriez être susceptible ?
Susceptible, peut-être, je dis, mais je ne montre pas ma susceptibilité, en tout cas. Si, par exemple, quelqu'un me dit quelque chose qui me déplaît et tout, ça va me déplaire, je serai atteint par cette chose, par cette parole, mais je ne vais pas le montrer.
D'accord. Alors, c'est ça qui est intéressant. Merci Sophia, merci infiniment. Ce qui est intéressant dans une relation, peu importe hein, le type de relation, mais en tout cas, voilà, quand on est en interaction avec quelqu'un, c'est important de savoir ce que l'autre ressent. Parce que quand on ne sait pas ce qu'il y a en face, il n'y a pas d'effet miroir et on n'arrive pas à nouer le lien, à aller vers l'autre en se disant mais ce que je dis, est-ce qu'il y est sensible, il n'y est pas sensible, est-ce qu'il aime, est-ce qu'il n'aime pas. C'est important aussi de dire à l'autre, bah là ce que tu viens de me dire, ça me fait mal ou je ne suis pas d'accord ou... parce que ça développe la confiance en fait. La confiance en soi et la confiance en l'autre.
Je ne m'exprime pas trop sur ce
point. D'accord, Franck. Alors Franck, il y a autre chose aussi que je vous recommande pour vous, c'est, si vous le souhaitez, de vous faire accompagner en thérapie comportementale et cognitive.
Oui.
Une petite thérapie, ça peut également vous aider à vous développer personnellement. Donc c'est des thérapies brèves, hein, les thérapies comportementales et cognitives qu'on appelle les TCC. Ça ne dépasse pas les 3 mois normalement. Sinon après, donc on vous dirige vers un psychiatre ou un psychologue. Et en fait, le principe vraiment, c'est de vous aider à changer ou en tout cas aller vers un comportement qui vous ira plus. Donc on part des conséquences et on ne part pas des causes. Donc, à partir des conséquences, essayer de travailler sur ces conséquences-là pour vous aider à cheminer vers quelque chose qui vous irait bien. Et là, il y a un peu de travail pour vous. C'est intéressant.
J'ai fait ce genre de choses au cours d'une hospitalisation en Allemagne.
Mmh.
C'est un centre européen bilingue, français-allemand,
oui.
qui s'occupe justement de thérapie comportementale qui applique des thérapies comportementales. Et parce que, bon, pour vous dire, j'ai aussi des TOC. Hein. Et c'était pour ça que j'étais hospitalisé dans cette clinique-là. Et donc, j'ai fait un peu toutes ces choses, thérapie comportementale. Et...
D'accord. Quel type de TOC avez-vous ?
Des TOC de vérification. J'ai toujours envie de vérifier. Quand je sors de chez moi, je suis jamais sûr que la porte est fermée. Je suis jamais sûr que...
Oui, donc ça peut mettre 5 minutes.
Des fois plus.
Oui, plus, oui. D'accord, je comprends. D'accord.
L'année dernière, il y a eu une année où je pense que j'ai lié ça au Covid. C'est parce que le Covid angoisse. Et comme les TOC sont liés à l'angoisse, ça a une répercussion sur mes TOC. Et j'ai eu beaucoup plus de TOC l'an dernier, en 2020, que j'avais jamais eu dans toute ma vie.
Oui.
Et là, je mettais carrément des heures à vérifier les choses. Enfin, c'était horrible. Et c'est pour ça que j'ai été réhospitalisé dans ce centre allemand cet hiver. Et en sortant, ça s'est amélioré. La situation s'est rétablie, en quelque sorte, comme avant.
Qu'est-ce qu'on vous
J'ai eu une mauvaise année 2020.
Et est-ce qu'on vous a expliqué pour quelles raisons est-ce que vous aviez ces TOC de vérification ?
Écoutez, quelqu'un m'a dit une fois que les TOC, c'était d'origine génétique. Alors, je ne sais pas si c'est vrai.
Alors, il y a forcément, hein, il y a plusieurs facteurs, mais pour vous, est-ce que dans votre famille, il y a justement des personnes qui sont toquées, et notamment...
J'avais une sœur qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, malheureusement, qui avait aussi des TOC. Et autrement, pas ma connaissance, non, on n'était que deux, quoi.
D'accord. Bon, parce qu'effectivement, tous les troubles obsessionnels compulsifs, ils peuvent être... Bon, ça se développe quand on est enfant, ensuite ça peut se calmer, puis après, à l'âge adulte, il peut y avoir des traumatismes qui reviennent, et donc par conséquent, ça se décuple. Hein. D'accord, bon.
Il y a des hauts et des bas. Il y a des années où ça va mieux, il y a des années où ça va moins bien.
En tout cas, par rapport au trouble de la vérification de mémoire, maintenant, il faudrait revoir, mais c'était aussi lié à la violence, d'ailleurs, les troubles de la vérification, c'était aussi que ça pouvait, quand on avait peur de faire du mal à son entourage, eh bien, on pouvait être dans ces TOC de vérification, en fait. Donc, je suis un peu... Je parle un peu bizarrement parce que je réfléchis en même temps et je repense à votre parcours et je me dis, tiens, il y a un vrai lien entre ce que vous avez vécu dans votre enfance avec tous ces conflits et justement cette crainte de réitérer la même chose et donc les troubles de ce TOC de vérification. Il faudrait vraiment le revérifier avec un... Vous savez, moi, je suis psychopraticienne en TCC, avec un psychologue, mais il me semble que c'est la peur aussi de faire du mal à son entourage.
Ah, peut-être, oui. Je sais pas, j'ai peur. Moi, je j'ai pas analysé comme ça trop les choses. Mais c'est possible, oui.
Oui, je crois qu'il y a un lien. Mais voyez, donc, vraiment, pour vous, les pistes, elles sont nombreuses. On sait d'où ça vient. On sait quelles conséquences ça a eu sur votre vie amoureuse, en tout cas.
Oui.
Sur votre vie affective. Si on prend de la hauteur, finalement. Et aujourd'hui, maintenant, pour demain, c'est je fais la liste, je vois éventuellement un thérapeute, et puis surtout, j'apprends à exprimer mes sentiments. Si je ne suis pas d'accord, je le dis. Je m'affirme un petit peu plus.
Oui.
Et je vous garantis, Franck, à moins d'être maso, les femmes ont une préférence pour les hommes doux, gentil, peut-être parfois bad boy, ce qu'on appelle les bad boys, mais pas forcément, je vous assure, vraiment pas violent. Sauf si je suis maso.
Ouais.
Et encore, vous voyez, c'est une pathologie. C'est que, bon, voilà, mais...
Oui. Oui, c'est difficile.
Donc, c'est un peu de travail pour vous, mais si vous en avez envie, ce qui semble être le cas, vous allez y arriver.
Oui.
Voilà, Voilà, j'étais en train de repenser à tous les moyens aujourd'hui à votre disposition pour rencontrer des personnes, hein, des sites de rencontres, les sites d'amitié, les associations, vous avez raison. 60 ans, vous ne travaillez plus ?
Je ne travaille plus, non.
D'accord. Donc voilà, déjà trois pistes possibles.
Oui.
Ah, Bérangère qui vient de vous écrire un SMS qui vous dit, si vous aimez écrire, pourquoi pas correspondre avec une personne en prison ?
J'y ai pensé à ça. C'était un psychiatre à l'époque qui m'avait proposé ça. Et puis, il l'a proposé, puis après, j'ai pas, comment, il n'y a pas eu de suite, quoi. Il a pas fait suite à ce... Mais effectivement, j'avais pensé à ça.
Oui.
Mais de manière anonyme, je crois, parce que je sais pas comment on s'y prend pour faire une demande de correspondance avec quelqu'un en prison.
Ah, eh bien, vous avez un ordinateur ?
Non.
Non. Est-ce que vous avez un smartphone ?
Ben non, je suis pas équipé avec ça. J'ai un téléphone portable, mais j'ai beaucoup de mal à m'en servir parce que je suis pas très doué pour ça.
Eh bien, c'est l'occasion d'aller justement faire une petite formation sur comment j'utilise un smartphone de façon à pouvoir vous ouvrir à toute la planète et trouver donc plein d'amis, plein d'idées. Et on va regarder, là, je regarde Bastien qui semble en face essayer. Oui, voilà. Ils sont extraordinaires, ils anticipent tout. Donc là, Bastien est en train de vous chercher les coordonnées pour pouvoir écrire. Voilà, bon, fantastique. Merci Bastien. Donc, soit on vous rappelle, Franck, soit sinon, ils sont là pour le moment, ils sont au téléphone. On vous rappellera juste, en tout cas, ne serait-ce que pour vous communiquer les coordonnées d'associations qui vous mettront en relation avec des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées pour pouvoir échanger. C'est une excellente idée. Excellente idée.
Oui.
Maintenant, pour rencontrer quelqu'un, forcément, ce ne sera pas, quoique, aller faire des visites en prison. Mais je pensais à une construction de vie. Voilà. Puis parfois, on ne sait jamais, quelqu'un qui... On n'est pas à l'abri d'une belle rencontre.
Oui, oui, peut-être.
Il faut y croire un petit peu plus. Là, moi, je mets de l'énergie, mais...
Oui.
Je vous bouscule,
là. J'ai du mal à y croire, parce que arriver à mon âge et être toujours tout seul... J'ai perdu l'espérance, quoi. J'ai perdu l'espoir de faire des rencontres, quoi. J'ai du mal à y croire, quand je vous l'avouerai.
Alors, écoutez, vraiment, je vous invite à écouter le podcast de l'émission d'hier. Écoutez ce que dit Angèle. Elle est extraordinaire. Écoutez ce qui s'est passé également pour Michel. Incroyable. Michel nous a appelé vendredi. On a fini l'émission ensemble. Il était, mais je vous assure, au fond du seau. Sa femme décédée, sa phrase m'a marquée. Il nous a dit « Je parle au mur et personne ne me répond ». Je crois que là, dans l'image de « Je suis seule », je suis dit désespérée, « Je parle au mur et personne ne me répond ». Et en fait, il se passe quelque chose d'extraordinaire et c'est ça qui fait la magie de la libre antenne, c'est que des auditrices l'ont entendu, elles ont été très sensibles à son histoire et elles l'ont contacté, puisqu'on les a mis en relation.
Ouais.
Écoutez Michel vendredi soir et écoutez-le Franck hier.
Oui, il vous a rappelé hier.
J'ai démarré l'émission avec lui.
D'accord.
Si l'histoire de Michel, si vraiment, écoutez-le, si Michel ne vous donne pas la foi... Ah non, c'est pas possible. Écoutez Angèle. Angèle, pareil, qui a perdu son époux. Et puis là, ça y est, elle est prête. Je vous assure, Franck, vous n'êtes pas un cas isolé, mais si vous y... Forcément, c'est en vous. Et je vous assure, si vous voulez rencontrer la femme de vos rêves, devenez l'homme de vos rêves.
Oui. C'est joli ce que vous dites.
Merci. Mais c'est surtout à mettre en application. Et je suis certaine que vous pourrez y arriver si vous le décidez. Donc prenez le temps, prenez au moins le temps de la réflexion. Réécoutez-vous. Vous verrez, ce n'est pas si simple que ça. Mais je vous assure que vous, peut-être il y aura un déclic en vous disant « Oh là là, quand même
!» Oui.
D'accord ?
Oui, d'accord.
Franck, je compte sur vous pour nous rappeler prochainement, pour vous, nous donner de vos nouvelles et nous dire ce que vous devenez et ce qui se sera passé après cet échange.
D'accord.
D'accord ?
Oui, ben je rappellerai.
Très bien. En attendant, prenez soin de vous.
Oui.
Parce qu'il y a beaucoup de travail qui vous attend.
Oui.
Je vous
remercie.
Mais je vous en prie, Franck. Je vous embrasse.
Moi aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Nous accueillons tout de suite notre auditeur et c'est Philippe. Bonsoir, Philippe.
Bonsoir, Madame Sana. Blanger. Pourquoi vous me reconnaissez à mon accent?
Mais oui, je vous reconnais.
C'est l'accent du Sud-Ouest.
Ah bah alors là, maintenant, ça y est, vous avez marqué d'une empreinte le bonsoir Madame Sanam Langer.
D'une empreinte indélébile.
Bah oui, 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 j'ai presque envie de dire contrôle d'identité.
Contrôle d'identité, vos papiers souplettes.
Voilà.
Alors c'est vrai que, comment vous dire la dernière fois, je vous avais parlé, comment dire, de mes enfants. Voilà, c'est-à-dire, j'ai eu une vie très difficile qui a été, ma foi, émaillée aussi de bonheur. Hein. Faut pas dire que j'ai été quand même, comme chacun dans le monde, et chacune dans le monde, j'ai vécu des choses horribles, mais des choses heureuses quand même. Et notamment auprès de mes copines, enfin de mes amies femmes, à qui je dois tout. Mmh. Elles m'ont sauvé de la tempête, parce que comme je le dis, ma vie fut un ouragan traversé d'accalmie. Elles ont été mes accalmies, elles ont été mes îles, mes
permis
de me reposer.
Ouais. Excusez-moi, voilà. Ça avait coupé, donc j'ai cru qu'on vous avait perdu.
Oui.
Effectivement, c'est ce que vous nous aviez expliqué, Philippe,
oui.
Et vous avez trouvé, pour les auditeurs qui nous rejoignent, qui n'avaient pas suivi donc, votre passage, pour ça qu'on s'est reconnus, si je puis dire. Vous, de mémoire, je crois que vous écrivez des poèmes.
Oui, en effet.
Que vous recherchez un éditeur.
Justement, oui.
Et
oui.
Je voulais juste terminer, Philippe. Le poème que vous nous avez lu était magnifique. On a reçu plein...
Faites chaud au cœur.
Ah, mais vraiment. Alors, en fait, il faut savoir que les auditeurs, soit comme vous, sont des invités et passent en direct, soit ils s'expriment à travers les SMS, donc au 739-21, en commençant par le mot nuit.
Oui, oui.
Soit sinon, ils appellent directement au 39-21, pas forcément pour passer en direct, mais au moins pour. Voilà. Et alors, on a eu énormément d'appels et beaucoup de SMS pour dire que.
Je suis heureux.
Vraiment. Et il est très, très beau. Très beau poème.
Mais si vous le permettez, justement, je ne sais, si, comme je l'ai dit dans ce poème, je dis « Mon sort d'aventurier gagnant toutefois sa vie ne me permit guère dans toute mon histoire de savoir si des fils et des filles, Dieu m'en suivit de ses si fougueux plaisirs avec mes douces stars. » Et justement, comme je ne sais si des fils et des filles m'ont été donnés par l'amour, ma vie a été tellement aventureuse, si vous voulez, je vous lis un poème que j'ai écrit, « Conseil à une fille bien-aimée ». C'est un poème d'amour paternel.
Bien sûr.
« Conseil à une fille bien-aimée. Ô fille, si tu aimes le beau prince amoureux, si tu veux fort bien élever des enfants heureux, étudie pour te former à l'autonomie. Réalise les rêves que tu t'es promis. Les hommes et les femmes respecteront chez toi ce qu'un emploi honorable de tes qualités aura donné de vertu à ta noble beauté, caractère forgé et profession de choix. Ne sois pas une suiviste sans philosophie. Sois de celles qui défendent ferme les petits, de celles de cœur bon qui prient Dieu qui édifie, qui préfèrent le propre à parade et fier vernis. Souviens-toi de te méfier, prudence et sûreté. Ne raffole pas des donjons séduisants. Apprends à connaître tout autre sans t'exalter. Il peut être aussi bien gracieux que malfaisant. Évite les trop sûrs d'eux, les si peu altruistes, les sectaires, les paresseux, les intempérants. Éduque à sainteté et à bienfaits différents. Tu seras une parfaite princesse artiste. Voilà, mon pseudo en écriture, c'est Philippe d'Occitanie.
Absolument, Philippe d'Occitanie. Encore un très très beau poème. Vous aimez les alexandrins, manifestement.
Oui, alors je l'ai fait en 2-13 pieds, personnellement. D'accord. Je sais que c'est une licence poétique, mais bon, comment vous dire, je ne peux faire autrement pour mon écriture, parce que sinon je n'arrive pas en 12 pieds.
Et en plus, il y a un rythme.
Oui, en effet, il y a des allitérations et des assonances, oui.
Non, c'est très très joli, vraiment.
C'est gentil.
Philippe, qu'est-ce qui s'est passé, si vous voulez en parler un tout petit peu plus?
Oui.
Parce qu'il y a beaucoup de pudeur chez vous, il y a...
C'est gentil.
Non, c'est vrai.
Oui. Et disons que, comment dire, je me suis mal entendu avec mon père très tôt.
Ah, je vous sens déjà très ému.
Oui.
Retenez pas les larmes. Elles sont belles, vos larmes. Donc, voilà, ne les retenez pas, ça fait du bien.
Il ne m'aimait pas.
D'accord. Je suis désolée. Oui. Bon, c'est pas une obligation. On aura fait une tentative. D'accord? On aura fait une tentative. Ce que je vous recommande, c'est de prendre un verre d'eau frais.
D'accord.
Et de le boire tranquillement, de souffler comme vous l'avez fait.
Voilà.
De l'eau, hein?
Oui, c'est de l'eau avec du miel que j'avais préparé.
Non, mais parce qu'en Occitanie, on boit bien. Il y a des bons vins.
Oui, surtout que j'habite une région de bons vins.
Et ben voilà.
C'est un bon vin, enfin, je ne veux pas trop le dire où je suis, mais enfin, comment dire, c'est une région, on appelle ça le Gaillac.
D'accord.
Enfin, je ne veux pas faire de pub parce que je ne suis pas là pour ça. Non. C'est un très bon vin.
En revanche, voilà. On profite de votre passage pour dire que vous recherchez un éditeur et non pas un auditeur.
En effet, je me suis trompé dans mon allocution.
Non, c'est moi qui m'étais trompé. Je vous avais dit oui, vous recherchez.
Non, c'est moi.
Un éditeur, donc, parce que vous avez écrit un recueil de poèmes.
Oui, assez conséquent. J'ai écrit aussi un essai, comment dire, des romans et des nouvelles.
Très bien, d'accord. Bon, manifestement, j'ai encore redit un auditeur au lieu d'un éditeur. Bon, pardonnez-moi, mais je pense que tout le monde a compris. Donc, vous recherchez un éditeur pour vos recueils, voilà, vos nouvelles.
Et aussi, comment dire, je ne cherche pas la célébrité, si vous voulez. Ce que je cherche, c'est, comment dire... Bon, rendre les personnes heureuses par ma lecture et par aussi, comment dire, leur donner certes du soleil au cœur lorsqu'elles me lisent, mais aussi il y a un message dans mes propos. L'amour que j'ai vécu, il a peut-être porté ses fruits et c'est vrai que je suis un homme qui attend, je ne sais pas, le bonheur comme chacune. Et pour moi, je voulais... Au départ, parler de l'enfance, de l'intelligence du cœur et de l'amour.
Mmh.
Tout un poème, tout un programme, si vous voulez.
Oui.
Et c'est vrai qu'il y a un monsieur qui m'a précédé et il a parlé aussi des malheurs des femmes qui, comment dire, sont battues et même, il faut le dire, malheureusement tuées par des hommes odieux et infects, comme je l'ai dit dans un poème, si vous voulez, je terminerai par ce poème, justement, à l'honneur de Madame Valérie Bacot.
Alors, j'ai écrit. En fait... Ce qu'on va faire plutôt, c'est que comme il va y avoir le flash de Yasmine Akatou,
bien, madame.
Voilà, monsieur. Ah, monsieur Philippe.
Oui, madame Sada.
Parce que vos poèmes sont tellement beaux qu'il est hors de question que vous lisiez très très vite. Donc on va prendre le temps juste après. Et,
très bien.
D'accord. Donc on se retrouve après le flash et puis vous nous lisez votre poème.
C'est gentil, merci.
Je vous en prie. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble pour une petite heure sur la Libre Antenne. Sachez que vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur le site d'Europe 1 dès demain. Vous pouvez aussi nous contacter par mail à libreantenne@europe1.fr. Kelvin et Bastien attendent vos appels au standard du 3921. Et je vous dis à tout de suite.
Venez vous confier à Sana Blanger sur Europe 1.
Monsieur Philippe.
Madame Sana.
Ça me fait...
La meuf, là.
Oui, ça me fait très plaisir, en tout cas, de vous avoir de nouveau. Puis le soleil
merci,
dans votre voix.
Moi de même,
ça...
moi de même.
Voilà. Alors.
Alors, dites, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai rencontré dans ma vie deux Isabelles. Une à Montpellier et une à Toulouse.
Alors, juste une petite chose.
Oui.
Philippe, je voulais savoir, est-ce qu'éventuellement, vous oui. avez un poème d'espoir? Un poème sur l'espoir, parce que là...
Oui,
je...
j'en ai plusieurs, j'en ai énormément.
Je pense à Franck. Franck qui vient de nous appeler. Franck qui nous dit qu'il a perdu l'espoir.
Et, ah oui, et je voilà, l'ai entendu.
Je me demandais si vous aviez un poème qui pouvait lui redonner de l'espoir, de la confiance, voilà, quelque chose...
Justement. Je vais, si vous le voulez, je vais vous en donner deux, offrir deux à chacun, chacune. Où que vous soyez, qui m'écoutez, qui nous écoutez, pardon.
Absolument.
Et que, comment dire, que ce sont des poèmes. Alors, il y en a un pour deux Isabelles, une que j'ai rencontrée à Toulouse, une autre à Montpellier, et avec qui je ne sais si, justement, notre amour a donné jour à des enfants. Voilà. Donc, ô Isabelle. Alors, celui-ci en particulier, c'est pour mon Isabelle de Suisse. Ô Isabelle, je ne suis qu'une moitié d'homme sans avenir, sans toi qui n'es présente qu'à mon souvenir, dans mon cœur qui pleure le parfum de ta peau, je ne sais où dans quel astrée boire ton eau. Tu manques cruellement à mon présent d'homme, je vécus vraiment avec toi mon plus heureux temps, ma vie se lit comme notre histoire en deux tomes, avec toi et sans toi mon cœur en ton cœur battant. Ô Isabelle, ma perle venue de la Suisse, je suis bien ce français poète, ô que Dieu puisse nous réunir tous deux pour partir loin encore, vers les cieux d'amour sacré, d'azur, de lys et d'or. Voilà.
Superbe.
C'est gentil.
Ah, mais vraiment. Bon, maintenant, effectivement, je ne vais pas vous dire que c'est... Mais c'est sincère, c'est vraiment très beau.
Oui, je vous remercie. Je vous remercie. si vous voulez, alors celui-ci, il est pour une mademoiselle qui s'appelle Mademoiselle Lotan, que j'ai rencontrée dans mon... Mais je vous laisse apprécier, c'est vrai.
Ah, mais oui.
Je suis tellement pressé de vous donner encore de cette beauté que j'ai, comment dire, que je ressens, si vous voulez, qui m'est, comment dire, que je tiens à partager, vous comprenez que
bien sûr.
Voilà. Donc, il est pour une amie qui s'appelle Mademoiselle Dautan, comme le vent d'Autan, elle porte le même nom que ce vent d'Autan qui souffle dans notre Tarn, et qui est ce Mistral et cette Trabontane que l'on connaît dans d'autres régions. Donc, le titre, c'est un poème d'amour qui s'intitule « Dautan, ce pur souffle d'amour qui emporte mon cœur ». Tout ce que je sais d'elle se résume à présent. Apprenez que son charme est un thème bienfaisant. C'est une mademoiselle Dautan, parfaite, ainsi qu'au printemps, ma vigne, au soleil, en fête. C'est une merveille de petite trentaine, à la peau parfumée, à l'élégance soignée, d'intelligence tolérante, bien enseignée, belle comme une déesse adorée d'Athènes. C'est une gracile poétesse de mon cœur, elle est délicate poésie de mon bonheur, elle est toujours très mode, d'un subtil langage, je lui dépose ces mots immortels en gage. C'est une demoiselle d'autant parfaite, ainsi qu'au printemps ma vigne au soleil en fête. Chaussée de spartiate, ses pieds fins sont si menus, ses cheveux longs et soyeux ne sont pas retenus. Libre. Pardon.
Ça va.
Libre comme l'air du Tarn, libre comme l'air du Tarn, ô si elle m'aimait, je la rendrais bien la plus heureuse de toutes. Elle et moi bâtirions une maison renommée, vive et parsemée d'enfants serait notre route. Nous irions loin en ces espaces-temps infinis, portés par la céleste passion encore à cœur, là où séjournent les zodiaques qui communient, avec ce divin amour dont on est serviteur. Voilà.
Superbe. Vous voyez, je vous écoute et je me dis, c'est vrai que ça nous manque d'écouter des poèmes.
Oui.
Alors oui, aujourd'hui, il y a des slams, mais c'est encore autre chose. Mais c'est vrai, quand on quitte, parce que moi, la dernière fois que j'ai écouté des poèmes, sincèrement, c'était à l'école, hein, quand
oui,
j'ai récité.
Sûr.
Mais qu'est-ce que c'est beau. Merci, Philippe. Merci.
C'est gentil.
Ouais, vraiment.
Celui-là, je l'ai écrit le 21 décembre 2017, le jour de Saint-Pierre Canisius, à Gaillac.
Alors, Kelvin était en train de me dire, pardonnez-moi, ça va vous faire plaisir, qu'il y avait énormément, d'expressions de gratitude pour vous dire que ce que vous écrivez, c'est vraiment très très beau, beaucoup d'émotions partagées et une très belle voix.
C'est gentil.
Voilà, Philippe. Bah écoutez, merci pour,
c'est moi qui vous remercie,
pour ces moments de douceur.
Et
ça fait du bien.
Je veux dire, primitivement, je voulais parler de l'enfance, de l'intelligence du cœur, bien évidemment de l'amour. Mais je voulais dire aussi que les enfants sont nos véritables exemples, à nous, les adultes, parce qu'ils sont porteurs de plus de, comment dire, de naturel, d'affection et de bonté, et que nous devrions plus les écouter et remarquer leur exemple, justement parce que, loin d'être... Ce n'est pas par puérilisme que je dis cela, mais c'est parce qu'ils sont, comment dire, véritablement la sagesse même. Voilà, et c'est, comment dire, dans la Bible, il est écrit, je ne sais plus dans quel livre, pour la malice, soyez des enfants, mais pour ce qui est de la sagesse, soyez des hommes faits. Et j'ai envie de dire des hommes et des femmes faits. Mmh. C'est-à-dire des hommes et des personnes mûries et réfléchies, mais la malice, c'est différent de la méchanceté, si vous voulez. Comme disait Jacques
Rousseau, ça n'a rien à voir.
Oui, tout à fait, ça n'a rien à voir.
Ouais.
La malice, c'est gentil, la malice,
oui.
C'est pas méchant,
oui,
je veux dire.
Chose de... Oui, bien sûr.
Voilà, bon, c'est la malice, quelqu'un de malicieux, c'est quelqu'un qui s'amuse, bon.
Absolument.
Qui ne taquine même pas, qui est voilier. Voilà.
Bah, merci beaucoup, Philippe, vraiment. Et puis, continuez à nous transporter comme ça dans votre univers. Merci, parce que c'est vraiment
beaucoup.
Très, très beau. Et voilà, prenez soin de vous surtout. Et rappelez-nous pour nous apporter un peu de douceur.
Avec plaisir.
Et à
toutes mes amitiés, je vous adresse à tous et à toutes mes amitiés et j'espère que vous suivrez l'exemple de l'enfance.
Merci infiniment. À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Vous aussi venez vous confier à Sana Blanger en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Nous accueillons tout de suite Michel E. Bonsoir Michel E.
Allô.
Bonsoir Michel.
Oui, bonsoir Sana. Ah, ça va maintenant, je vous entends bien.
Ah, très bien.
Ah, écoutez, avec ce monsieur qui vient de passer, j'étais dans le sud, à Aubagne. Comment il s'appelle, c'est notre grand auteur, je ne sais plus son nom.
Philippe.
Pardon ?
Philippe d'Occitanie.
Non, l'auteur qui est né à Aubagne, je ne sais plus son nom.
Ah, non, alors là, je ne vois pas de quoi vous parlez.
Si, l'auteur du Sud, on a fait passer les films sur son enfance. En mars.
Ah, vous parlez de Marcel Pagnol ?
Voilà, Pagnol. Et il m'a fait vraiment penser à Pagnol et au film merveilleux sur l'enfance de Pagnol. Magnifique, ces films.
Mais alors, pardonnez-moi, parce que je ne comprenais pas le lien entre bonsoir, bienvenue à la libre antenne, le fait que vous étiez en train de regarder quelque chose. J'ai rien compris.
Non, j'étais avec le monsieur qui vient de passer à l'instant et qui parlait qui nous a fait partir loin avec sa poésie, c'est
ah,
ça.
Ah, donc Philippe d'Occitanie, d'accord.
Ah oui, j'étais partie avec lui, j'étais
vous avez vu c'est magnifique.
À Aubagne, voilà, c'est pour ça. J'étais très loin de ma chambre.
Bah super, bah écoutez, je vous comprends parce que vraiment c'est voilà, il a beaucoup de succès, il y a eu énormément de personnes qui se sont d'auditeurs qui se sont manifestés ce soir pour dire que c'était un vrai moment de légèreté.
Oui. Et on a besoin de ça en ce moment.
Absolument. Merci à lui pour ce moment de légèreté, vraiment.
Oui, puis ça me fait penser à ma petite fille. Il a fait parler des. Il a pensé aux enfants. Et c'est vrai que l'enfant, moi, je vois ma petite fille devant mon fameux chat, n'est-ce pas? Elle veut le crayonner. Et elle le regarde avec une affection, un amour. Et en plus, elle m'a dit un soir, elle dit, mamie, est-ce qu'un chat, ça pleure? Et j'ai trouvé ça très mignon.
Oui, c'est vraiment très mignon. Ah ouais, non, mais c'est. Voilà,
Est-ce qu'un chat, ça pleure? Ouais.
Michel, est-ce qu'un chat, ça pleure?
Oui, parce que je vais partir d'ici 15 jours. Et l'autre soir, mais c'est un peu comme un enfant, bon, nous faisons chambre à part, n'est-ce pas?
Avec votre chat?
Il est dans le séjour, oui, il est dans le séjour le soir.
C'est mignon.
La porte-fenêtre est ouverte. Et je l'ai entendu miauler, mais je crois qu'il sait que je vais partir. Et il pleure un peu, quoi, voilà, déjà.
Vous partez en vacances?
Oui, 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 je suis décidée à partir. Ben là, je vais à Grasse. Je vais humer les odeurs de Grasse et ça va être merveilleux, je pense.
Ah.
7 heures de train, mais
ah oui, quand même.
Ça va me faire quitter le Nord, que je ne supporte plus, le climat, les dimanches gris. Ça devient...
Michel, est-ce que vous êtes notre Michel qui avait appelé
Oui, oui, j'ai retrouvé le numéro de téléphone d'Alain, et voilà.
Ah,
donc, merci encore.
Donc vous êtes en train de nous parler de Moon?
Oui, bah oui, ah bah il est connu. Mais vous savez qu'il y a des gens qui viennent à la maison, ils le prennent en photo.
Ah oui, ah donc c'est vraiment
c'est
la star.
C'est un Maine Coon, hein. Ah, Maine Coon, mais pas pure race. Hein. Pas pure race. Hein.
D'accord.
Mais il est d'une grande gentillesse. Il adore les enfants. Il est génial.
Ouais. Donc on peut le dire. On peut expliquer aux auditeurs. Maine Coon, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment grand, grand chat.
Ben oui, quand il est par exemple collé contre moi, ben c'est quand même du 7 kilos de sang. Hein.
Oui, quand même.
Et oui, c'est quand même un peu...
Puis il faut nourrir, faut nourrir, hein, ça.
Ah ben là, il est au régime.
Ah oui, d'accord. Et qui va s'en occuper quand vous allez partir?
J'ai une adorable femme de ménage qui a déjà 3 chats elle-même.
Ah, super.
Mais qui va venir tous les jours, où elle habite le quartier.
D'accord.
Oui, mais quand je rentre, il me fait la tête. Hein.
Ah.
Tant pis.
Bon, mais manifestement, vous avez une relation très, très fusionnelle. C'est vraiment mignon, c'est vraiment mignon.
Ah oui, il est vraiment... Ouais. Il aimait beaucoup mon mari aussi. Mon mari est parti donc il y a 1 an et 2 mois maintenant. Et il aimait beaucoup. Il a attendu devant le fauteuil de mon mari 3 semaines.
D'accord.
Et il est parti après. Bon.
Oui, bon.
Bon, enfin, comme je disais à votre petite assistante, dont j'ai encore oublié le nom.
Le très très beau Calvin.
Ah, oui, c'est vrai que...
Il est beau, dites-moi,
il est brun, blond.
Il est châtain, il a des yeux verts, il est très grand, il doit mesurer 1m80... Ah oui, voilà, donc il me dit 1m91. Et il a beaucoup de succès.
Oh, déjà, il est très agréable, c'est très important. Oui,
oui. Et Bastien, oui. Bastien, pareil, il est... Enfin, voilà, donc c'est...
Oui. Bon, c'est bien, vous êtes bien entouré. Voilà. Oui,
vraiment.
Je vous appelais donc parce que je n'étais pas d'accord du tout, et même hier soir, j'étais même en colère peut-être pas, mais pas du tout d'accord, parce que je trouvais que pour la retraite, moi j'ai un frère qui a toujours... qui nous a toujours dit ah oui, il faut préparer la retraite parce que sinon, etc. Et quand lui est parti en retraite, on l'a mis dehors à 65 ans.
Oui.
Il a ressenti comme ça. Hein. C'était un métier passion qu'il avait. Hein.
Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait dans la
il
vie?
Il était dans l'énergie nucléaire à l'époque.
D'accord.
Donc il était très important dans les années... 70, oui, il est quand même plus âgé que moi.
D'accord.
Et il expliquait toujours, oh oui, il faut préparer. Et lui, voilà. Alors, je trouvais que c'est difficile, de toute façon, je pense que c'est difficile de préparer quelque chose, de toute façon, je crois. Parce que on n'est pas sûr de... Bon, peut-être au point de vue financier, se dire, bon, j'ai une maison, il faut que je finisse de la payer, il faut qu'on soit tranquille, Bon, voyons à quel âge je vais la prendre. Je comprends très bien tout ça. Je comprends qu'on peut réfléchir. Mais préparer, moi, ça me fait peur quand on dit, bon, je vais préparer mon mariage. Là. C'est vrai qu'il y a le mot préparatif de mariage. Ben, on n'est sûr de rien, après tout.
Alors, je comprends parfaitement ce que vous êtes en train de nous partager, ma chère Michèle. Et vraiment, voilà, il y a vous, parce que vous êtes et vous avez cette capacité à peut-être accepter ce qui arrive de façon beaucoup plus, je dirais...
c'est vrai, oui. Voilà. J'ai accepté ce qui est arrivé.
Oui, vous vivez, je ne vais pas dire que vous vivez au jour le jour, hein, ce n'est pas du tout mon propos, mais en tout cas, voilà, s'il y a des imprévus, vous arrivez peut-être plus facilement à vous adapter, alors qu'il y a des personnes qui...
C'est vrai, je me suis toujours adaptée toute ma vie.
Voilà.
Comme j'ai, même à tort, hein, même à tort.
Mais vous avez cette capacité-là à accepter les choses. Bon, si ça ne se passe pas comme c'est convenu ou comme c'était prévenu.
C'est tout à fait ça.
Voilà. maintenant, vous avez d'autres personnes qui ont besoin d'avoir de la visibilité, qui aiment anticiper, qui sont extrêmement organisées. Et donc, voilà, on prépare tout à l'avance, on organise tout à l'avance. Donc parfois ça peut aller vers un extrême qui s'appelle donc le côté extrêmement maniaque, mais néanmoins minutieux, perfectionniste, pointilleux. Mais vous n'êtes pas du tout dans, vous ne vous inscrivez pas,
du tout comme ça.
Voilà, moi je vous vois, la cigale, je vous vois comme une cigale. Tiens, on parlait de Marcel Proust.
Mais qui sait où elle met les pieds quand même.
Pagnol.
Où elle met les pattes. Je sais où je mets les pattes. Ah. Cigale, mais je sais où je mets les pattes.
Bon, voilà. Donc, après, à côté, il y a les fourmis. Et les fourmis, ben...
Non, ça, c'est pas moi du tout, non.
Elles sont organisées, voilà. Donc, pour une retraite, c'est vrai que c'est aussi une façon de, encore une fois, éviter cette peur aussi, anticiper cette autre vie.
Au cas où, allez, il faut penser à ça, au cas où, oui, mais je pense quand même que, bon, pas un exemple, mais maintenant, bon, mon fils aura sa retraite, il m'a dit, 65 ans, de toute façon, maintenant, je crois même plus, on a le temps de la préparer maintenant, puisque la retraite est de plus en plus tard, donc on a vraiment le temps. Alors, je ne sais même pas maintenant si on peut dire préparer sa retraite. Je sais même pas. C'est vrai qu'à l'antenne, je me souviens, il y a une dame qui expliquait. Ah oui, puis quand est venue la retraite, alors on ne savait plus quoi se dire. On ne savait plus à quelle heure prendre le repas. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont complètement perdus, paumés. Hein, non ?
Mais oui.
C'est vrai.
Après, tout dépend de la vie à côté, notre vie. Je dirais privé, hein, parce que dans la vie personnelle, ça inclut le travail et notre vie privée, mais dans la vie privée, on ne sait pas ce qui se passe.
Oui, c'est pour ça que...
Vraiment, donc,
oui, fait,
donc voilà, on a nos collègues, on a nos habitudes, des rituels.
Et mais puis... moi, je me souviens que mon époux, dès qu'il a arrêté, parce que moi, j'ai travaillé en même temps que lui avant... en ayant eu mon premier enfant. Après, j'ai arrêté, je suis restée à la maison parce que ça me plaisait, ça ne me déplaisait pas de... j'avais pu à me lever justement très tôt, prendre le train, prendre le bus. Non, je trouvais que c'était beaucoup plus calme de rester à la maison, d'aller à des associations, etc. Et dès que mon mari a su le jour de sa retraite, le soir, le lendemain, on préparait les valises et on partait dans le sud.
Ouais, fantastique.
Voilà. Ah oui, on a vécu des moments, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas de regrets, c'est pas de la tristesse, mais c'est simplement le fait d'être, ah ça y est, je trouve plus le mot, ça je m'en doutais, j'allais oublier le mot.
Expliquez-le.
Pas de tristesse, c'est pas quelque chose de triste, mais quelque chose qui semble un peu romantique, un peu...
Alors, soit de la mélancolie, soit de la nostalgie.
Nostalgie, voilà, j'adore ce mot d'ailleurs.
C'est vrai que c'est...
C'est de la nostalgie. Ouais. Alors je me dis, bon, ben, c'est tout, c'est passé. Tu l'as vécu, c'est très bien. Mm-hmm. Et puis maintenant, il faut tourner la page, il faut penser à autre chose.
Ça fait combien
Mais
de temps
Mais on peut y penser comme force, comme une force.
Bien sûr. Voilà. Bien sûr, Michèle. Vous, ça fait combien de temps que vous êtes à la retraite?
Oh ben moi, il n'y a plus d'âge, puisque après la naissance de ma fille, j'ai arrêté.
D'accord.
Non, il ne faut pas dire, je n'ai pas travaillé. Et au moment où je voulais reprendre un emploi qui m'aurait vraiment passionnée, j'avais 45 ans, alors mon mari m'a dit, écoute, je vais avoir ma retraite, ce n'est pas le moment de travailler. Voilà.
Qu'est-ce que vous auriez...
Oh, mais sinon, il y a beaucoup d'autres choses qui m'auraient plu, hein, beaucoup, beaucoup.
Et justement, qu'est-ce
moi,
que vous
auriez
voulu faire?
Moi, je voulais faire des études de droit, mon père n'a jamais voulu. Avocate, j'aurais aimé, parce que j'ai toujours le... mon fils est magistrat, n'est-ce pas? Et j'aurais voulu, parce que j'ai toujours le sens de... Ça y est, il y a encore les mots qui ne viennent plus, là. Je suis trop fatiguée.
Expliquez-les. Quand on ne trouve pas le mot, on l'explique.
Très bien, je vous remercie beaucoup.
Mais je vous en prie, Michel.
Alors voilà, ce qu'il y a, c'est que j'ai le sens de l'injustice. Tellement, tellement fort. Je ne sais pas pourquoi, parce que je n'ai pas subi des choses injustes.
Oui.
Si, le fait que mon frère ait pu faire des études d'ingénieur et pas moi des études de droit. J'ai trouvé que c'était vraiment très, très, très gros. C'était injuste, oui, c'était injuste. Et aussi, c'est ce que je disais en dernier.
Justement, Michel, je voulais savoir, oui, est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir un frère privilégié, parce que c'était parce que là forcément je pense
c'était
un homme
peu l'époque, hein.
Ah oui.
C'était un peu l'époque, donc j'ai pas été trop choquée parce que c'était un peu l'époque, hein. On disait le garçon et puis la fille, ah bon, elle est mariée, elle a des enfants, voilà, c'est ce qu'on
ouais,
disait,
c'était ça, voilà. Mmh. Donc vous en fait et manifestement votre époux aussi, puisqu'à 45 ans vous aviez envie, vous aviez des appétences
et... Oui, de reprendre. Il y avait à la bibliothèque, il y avait un emploi qui se libérait et ça me correspondait tout à fait parce que je lisais à peu près 2 bouquins par semaine. Donc, à l'époque,
oui.
Hein, oui. Ah oui, j'ai lu. J'ai eu la chance de naître dans une chambre où il y avait plein de bouquins. J'ai eu cette chance énorme. J'ai commencé par le commandant Charcot qui n'était pas tellement dans... Pour une petite fille de 8-9 ans, c'était pas tellement... Mais c'était les voyages, hein. C'était les voyages.
D'accord.
Ouais.
Mais oui, c'est vrai, vous nous aviez dit, vous voyagez et sans votre époux, de mémoire?
Absolument, seul,
voilà,
complètement.
C'est ça.
Ah oui,
ah, oui, vous êtes,
et
c'est bien.
J'aime beaucoup aller seule. J'étais allée dans l'ancienne Yougoslavie avec mes parents, je suis allée après la guerre, un petit peu comme si je faisais un journaliste, quoi, un petit peu.
Ouais.
Ça m'aurait vraiment plu aussi, le journaliste, c'est-à-dire, encore une fois, on bouge, hein, on bouge. Mais j'étais très heureuse d'avoir des enfants, très heureuse.
Alors,
j'ai beaucoup ri avec eux,
ouais.
J'ai appris l'anglais à mon fils avant qu'il n'aille en 6e, je lui ai appris à lire, voilà, j'ai beaucoup aimé être avec des enfants ou même sans enfants, hein, les animaux ou autre chose. De toute façon, je pense que ma fille m'a dit une chose. Elle m'a dit, tu sais, maman, tu me laisseras... Parce que je dis, qu'est-ce que je te laisserai plus tard? Alors elle m'a dit le goût de vivre. Et c'est vrai que...
fantastique.
Ouais, ça c'est...
C'est beau. Et qu'est-ce que vous a laissé justement comme empreinte votre mère, Michel?
Oh là là, mon Dieu, c'est l'horreur. Oh, ma mère, c'est l'horreur. À 14 ans, elle a voulu me faire quitter l'école. À 14 ans. J'avais les larmes aux yeux. Soi-disant, j'étais très mauvaise élève. Je ne sais pas, on aurait dit que elle avait raté des choses et elle ne voulait pas que... Mais je ne sais pas si c'était vraiment voulu.
Mmh.
Je me le demande.
Bah, comme vous le dites, c'est générationnel. Peut-être qu'à l'époque, encore une fois... Vous étiez...
Oh non, pas seulement ça. Je suis ensuite, mon père a voulu que j'aille à Londres parce qu'évidemment, il fallait que j'épouse au moins le duc de je sais pas quoi.
Oui, je me souviens, vous en aviez parlé, effectivement.
Oui, et donc j'ai été violée. Là, ma mère m'a dit que c'était de ma faute. Et mon père m'avait offert un piano parce que c'est pas seulement pour me faire plaisir, c'était les petits bourgeois de l'époque. Hein. Il fallait que la fille. Aller au piano, vous savez, comme dans certains films.
Oui.
Et donc, mais j'adorais le piano. Je me suis passionnée pour le piano, passionnée pour la musique. J'adore la musique. Quand j'ai entendu le zouk tout à l'heure, j'allais me lever et danser. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que donc, qu'est-ce que je voulais dire Oui, elle a voulu me le faire revendre.
Oui.
Non, il y avait une sorte de... Je crois qu'il y avait une sorte de jalousie, je pense.
Mm. Dites-nous, Michel, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on s'est eu au téléphone, alors?
Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Parce que, vous avez
parce que je suis très seule, parce que depuis un mois, j'ai ma fille et mes petites filles qui sont parties en vacances chez ses beaux-parents. Et bon, je suis très, très seule. Très seule, voilà.
Et là, vous partez
bon,
en vacances
J'ai la chance de partir. Hein, oui. Oui, j'ai la chance de partir dans un très beau pays, Grasse, hein, le pays
ouais,
des...
C'est magnifique.
Oui, et puis alors, la Coco Chanel est allée pour son fameux parfum. Hein, c'est, elle a été
ah oui, ouais, non, mais c'est voilà. Très beau.
Et donc... Et puis, ce qu'il y a, c'est que je vais rencontrer d'autres gens.
Très bien.
Je vais rencontrer des enfants que j'adore. Et je vais pouvoir parler un petit peu de tout. Au bout d'un moment, on se dit, oh, bah, cette dame, elle est seule, elle est âgée. Bon. Puis un petit peu à la fois, on m'écoute, on vient près de moi. Je crois que je suis quand même intéressante, il me semble.
Oh, ben oui.
Mais j'ai beaucoup de...
Alors, voyons.
Oui, mais quand, vous savez qu'au début du mariage, quand on était à table... Je parlais et mon père me disait ça ne nous intéresse pas. Ils ont souvent été comme ça. Vraiment,
ouais.
ça c'est du chagrin et ça. Et mon père, j'ai pourtant donc quand mon mari est en retraite, donc on s'est occupé beaucoup de mon père. Mon mari était l'ancien élève de mon papa, donc ils s'entendaient très bien. Et je n'ai pas voulu, oui justement, j'ai beaucoup pensez à Dominique et combien je comprends le chagrin qu'il a eu en voyant sa maman.
Oui.
Donc, comme j'ai compris ce qu'il ressentait.
Oui.
Parce que j'ai dit à mon frère qui disait qu'est-ce qu'on en fait, Olivier. Moi, j'ai dit d'abord c'est ton papa, ça reste ton papa, donc il faut le respecter déjà. Et moi, je l'ai beaucoup entouré, mon père, jusqu'à son... Un jour, il a dit, bon, ben, je téléphone à la maison de retraite, je ne peux plus rester chez moi.
Alors, juste pour expliquer,
c'est lui qui avait décidé, hein.
Et pour expliquer aux auditeurs, donc Dominique, pour ceux qui prennent l'émission en route, Dominique est un auditeur qui nous a contacté hier, qui avait déjà appelé auparavant et qui a commencé l'appel en 12e.
Beaucoup de courage.
En nous disant qu'il vivait un drame parce que le 21 août correspondait au mariage de sa fille et en même temps aux 100 ans de sa maman qu'il était allé voir. Dans une pension, voilà, en EHPAD, et qu'il l'avait trouvé dans un état, pas bien du tout, hein, pas bien du tout, et ça l'a bouleversé.
Oui, même s'il avait eu une enfance très très douloureuse, hein,
oui, absolument.
Très maltraitante en plus. Hein.
Absolument.
Mais malgré tout, il est devant un être humain.
Incroyable,
tout, voilà,
incroyable. Mais vous êtes tous incroyables. Vous êtes tous incroyables.
Mon père avait quand même une très bonne santé. Qui continuait à lire, Quand on partait dans le sud, je lui téléphonais tous les matins pour savoir comment il allait, lui souhaiter une bonne journée. Et bon, il râlait un petit peu parce qu'on partait, mais bon, il fallait quand même, il fallait quand même prendre des vacances. Donc, nous avons eu nos petits-enfants. Nous avons eu la chance que nos petits-enfants viennent en vacances. Ensuite, on descendait dans le midi. Ensuite, on remontait pour mon père. Donc, on n'a pas vu... Moi, je n'ai pas vu passer les années.
Alors, c'est...
C'était des années magnifiques.
Bah, c'est, et en plus, alors, pour le coup, je le dis également, vous me donnez la possibilité d'expliquer que, scientifiquement, il est prouvé que... Plus on avance dans l'âge, plus le temps s'accélère. Donc, on a l'impression que le temps passe hyper vite. Donc, chers auditeurs, si vous avez le sentiment que le temps passe très vite, voire trop vite, eh bien, c'est que malheureusement, eh ben, on avance dans l'âge. Voilà, ma chère Michèle. En tout cas, un grand merci. Merci de nous avoir donné de
vos
nouvelles, vraiment. Je vous souhaite
de ne pas nous quitter le dimanche, d'être avec nous.
Voilà. C'est un vrai plaisir pour moi également.
D'être là, oui.
Et on se retrouvera par la suite, cette année, les week-ends également. En tout cas, prenez bien soin de vous.
Merci beaucoup.
Une petite caresse à Moon.
Une petite caresse à votre chien.
Hein. À Danone. Ah. Merci d'ailleurs, Christiane, que j'embrasse également, nous dit que Isis et Chouchou nous souhaitent de bonnes vacances et une caresse à Danone. Et puis moi, donc, à Moon. Je vous embrasse et à très, très bientôt.
Au revoir.
Prenez soin de vous, Michèle. Au revoir. Au revoir.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Venez vous confier à Sana Blanger sur Europe 1.
Eh bien, nous accueillons notre prochain auditeur. Bonsoir.
Qui est une auditrice, en fait. Bonsoir, Sana.
Bonsoir.
C'est une surprise.
Mais oui, parce que je regardais Calvin, Bastien, et je leur disais, alors c'est qui la prochaine
ils
personne?
Ils sont dans la combine.
Ah.
Donc à vous de deviner qui est en ligne.
Alors.
C'est drôle, j'adore.
Bah oui, alors forcément la voix, je pense à Cécile.
Voilà.
Ah, Cécile.
Bon, bah c'était pas trop difficile à trouver.
Non, comment ça va, Cécile?
Ça va. Je voulais, je vais dire tu juste une fois.
Oui.
Je voulais te faire la surprise. Donc merci à ton équipe d'avoir permis cela.
Merci.
Pour la dernière, j'y tenais parce que
de la saison.
Je voulais vous remercier. Pardon?
De la saison.
De la saison, bien sûr, mais c'est important. Oui, pardon de dire, j'ai oublié de dire de la saison.
Non, mais c'est pas grave.
Mais,
c'est ça.
C'est important parce que comme je l'ai dit il y a pas très longtemps quand je suis passée sur le sujet de la pédocriminalité, qui est un sujet un petit peu difficile et lourd, mais d'actualité. En attendant, j'avais passé un message d'espoir en disant que même si on a des vécus très lourds et douloureux et qu'on prend en perpétuité, comme je l'avais dit, on peut après un chemin plus ou moins compliqué, rester debout et rencontrer de belles personnes. Mmh. Et vous en faites partie, Sana, en tout cas pour moi.
Merci,
donc je tenais à remercier.
Ah ben oui, je sais pas quoi dire. Merci.
Et c'est important aussi de remercier Europe 1 parce que grâce au passage que j'ai effectué, donc au passage au pluriel, j'en ai pas effectué beaucoup, mais l'impact a été vraiment positif. Je peux pas trop en dire encore, mais en tout cas mon dernier passage. J'ai entendu, même le lendemain, vous avez reparlé de l'association Les Papillons.
Tout
donc,
à fait.
Voilà, ça c'est très important puisqu'on est à la recherche de bénévoles toujours. On a dépassé les 1000 adhérents bénévoles, donc ça c'est super. On a 99 boîtes aux lettres à l'heure où on se parle qui sont installées dans tout le territoire français, donc c'est énorme, mais c'est pas encore assez. peut-être, en tout cas j'espère, un très beau projet à venir. Donc, je n'en parle pas par superstition et parce que rien n'est décidé.
On touche
grâce à Europe 1.
Ouais.
Grâce à Europe 1.
Fantastique.
Une auditrice qui a téléphoné on s'est appelé. Et donc, elle se reconnaîtra. Je la remercie. On doit s'appeler demain. Donc, je vous tiendrai au courant.
Oui.
Mais vous dites souvent la chaîne solidarité.
Et d'amitié, oui.
Oui. Et sur des sujets comme ça, c'est encore plus touchant parce que tout le monde peut être impacté plus ou moins directement. Et j'ai vraiment même des témoignages le lendemain, j'écoute, parce que j'écoute même en podcast, si je m'endors avant la fin, ça j'avoue que ça m'arrive. j'ai entendu, je crois que c'était Alain, je ne sais plus comment il s'appelle, le monsieur qui avait parlé de moi.
Alain.
C'était Alain,
oui,
c'est ça.
Oui, c'était absolument. C'était Alain qui avait été extrêmement touché par votre passage, Cécile. C'est vrai, il en avait reparlé le lendemain en disant que vous étiez extrêmement courageuse et il était très très touché, effectivement, qu'on embrasse d'ailleurs. Et qui, on était avec Michel juste avant. Et
oui.
Michel et Alain correspondent également ensemble suite à. Voilà, encore une fois, à cette communauté de la Libre Antenne, à la magie de cette émission. Toute cette bienveillance qui nous entoure. Parce qu'il y en a.
C'est fou, hein ?
Il y en a, ouais, vraiment.
Et Alain avait dit que j'étais une sainte, donc je n'irai pas jusque-là.
Je confirme, non.
Mais j'en demande pas tant. Mais en tout cas, ça m'avait vraiment beaucoup touchée. Et parce qu'il faut mettre un peu de légèreté aussi dans ce monde un petit peu bizarre en ce moment. J'entends parler de le poète d'Occitanie. Là,
Philippe, super.
Et voilà. Et moi, j'espère pouvoir rejoindre ma famille, parce qu'ils sont à 500 km et comme je me suis cassé la cheville, je vais pouvoir conduire.
Oui.
Pour fêter 80 ans de ma maman, parce que pour une fois, elle aura son fils et sa fille près d'elle. Et
oui.
Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu à cause de ce virus, parce que mes parents sont à risque. Et bah, c'est des moments importants comme ça. Et la famille, c'est important aussi, surtout moi, après ce que j'ai vécu, de se retrouver comme ça en famille. J'ai des parents formidables que j'aime énormément et qui ont tellement bien réagi quand je leur avais annoncé ce qui m'est arrivé.
Mmh.
Enfin, ils ont réagi comme ils ont pu, hein, mais après, tellement bien que c'est important aussi. On dit souvent qu'on ne choisit pas sa famille, mais moi, j'aurais pas changé mes parents.
C'est
voilà,
superbe.
Je vais pas prendre...
Juste une dernière chose, Cécile, puisque vous passez, est-ce que vous voulez bien nous rappeler
oui.
Voilà, tout ce qui concerne l'association des papillons, qui est vraiment, vraiment, qui fait un travail extraordinaire et qu'il faut faire vivre, parce que franchement, c'est génial ce que vous faites.
Ben, merci, Sana. Alors oui, on est une association loi 1901, c'est pour ça qu'on a besoin de mécènes et de dons. Donc le site internet c'est www.associationlespapillons.org. Nous mettons des boîtes aux lettres dans les lieux d'accueil d'enfants, donc des clubs sportifs, des écoles, des endroits où il y a du périscolaire, des écoles privées ou publiques, et nous faisons un temps de sensibilisation avec tous les enfants, alors par groupe de 30. Bien souvent, on se rend compte qu'au moment de la sensibilisation, alors c'est des petits temps d'échange avec les enfants, avec toujours l'équipe sportive ou éducative. Pendant ces sensibilisations, on réalise et on voit,
voilà.
On constate qu'il y a des enfants touchés. Il y a quand même 2 enfants par classe qui sont touchés par des violences, quelles
ouais,
soient.
C'est énorme.
Nous, on ne recueille pas la parole en direct, mais nous bénévoles, on est les messagers, on est les facteurs, on va relever les mots dans les boîtes aux lettres. Et comme ça, les enfants donc, libèrent leurs mots MAUX sur des mots MOTS. Et en fonction de la gravité des cas, nous prévenons soit la cellule de recueil d'informations préoccupantes du département, soit l'enseignant, le directeur de l'école ou la directrice, si c'est du harcèlement scolaire,
ouais.
Parce qu'il y en a de plus en plus.
Mmh, absolument.
Et c'est inimaginable peut-être, mais ça commence à la maternelle.
Oui, c'est fou, hein. Ouais.
Oui. En fait, on réalise, alors on est dans un monde assez étrange, mais avec les réseaux sociaux, Internet, ça a du bon, mais ça n'a pas que du bon. Le harcèlement, le cyberharcèlement, c'est très violent aussi. Et il y a des jeunes qui se sont suicidés à cause de ça. Et si on peut sauver un enfant, ce sera déjà énorme. Et partout où j'en parle, en ce moment, je fais beaucoup de kiné justement pour ma cheville.
Oui.
Et c'est un super centre de kiné. Et ils ont accepté que je mette une affiche. J'en ai parlé à 2 personnes. On rencontre pas les gens par hasard. C'est Paul Éluard qui disait qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous.
Des rendez-vous,
ça,
absolument.
C'est ça la phrase, hein,
Oui, tout à fait.
Et en fait, pendant une séance en piscine, là, j'ai rencontré une ancienne infirmière qui avait les larmes aux yeux. Et je lui ai pas raconté mon histoire. Hein, juste lui expliquer ce qu'on faisait. Une jeune femme qui on est resté un moment toutes les deux, qui a aussi de l'endométriose. Donc la première cause d'infertilité en France,
oui.
Et qui a subi des violences aussi. Donc depuis, j'ai l'impression, alors je ne sais pas si les dieux européens sont avec moi, mais
ouais,
depuis mon passage sur Europe 1, il se passe beaucoup de choses, alors pas que positives, mais de toute façon, il y a toujours du positif, même dans une leçon de vie. Quoi.
Absolument. Absolument.
Donc, je rencontre des gens, donc par hasard et donc chez le kiné, par exemple, parce que mes journées sont rythmées de kiné, je rencontre des gens qui m'apportent de toute façon, même si sur le coup je me dis mais c'est quoi cette rencontre. Eh bien, au final, je réalise que soit cette personne était là pour me montrer que c'était pas le bon chemin, bien sûr pas volontairement, ou bien voilà, une personne comme cette infirmière en retraite qui avait les larmes aux yeux et qui m'a dit dès mon retour de vacances, je t'invite au resto, on discute.
Sympa.
Et quelqu'un qui a un réseau énorme et avec qui ça va je pense beaucoup avancer aussi.
Bah, c'est génial.
Je n'ai pas rencontré quelqu'un qui n'est pas touché par cette cause.
Bah, oui.
Ce serait, je sais plus qui disait, je crois que c'est la personne d'avant qui disait que les enfants, ou c'est...
C'est notre poète, Philippe d'Occitanie.
Qui disait que les enfants, voilà, et ça me procurait beaucoup d'émotions.
Oui.
Et parce que effectivement, pour moi, un enfant doit garder son âme d'enfant, sa naïveté et ses yeux d'enfant. Alors moi, j'ai, malgré tout, je les ai, mais moi, je peux passer une heure à observer mon chien ou... et mon chat, puisque on parlait d'animaux, moi j'ai mon chien et mon chat qui m'accompagnent au quotidien et qui sont formidables parce que eux, ils ont l'amour universel et il y a pas d'entourloupe avec eux.
Je rajouterais même pour terminer que même quand on est adulte, il faut garder son âme d'enfant.
C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Sana, je peux passer une heure à regarder Pixel et Gomez.
Ouais, c'est important.
Voilà, c'est pas Danone, moi c'est Pixel et Gomez. Et en fait, ou regarder une coccinelle ou des fourmis, enfin, vous voyez.
Ouais, dans l'observation, ouais, c'est bien.
Ouais, c'est très très important. Donc voilà, je veux pas prendre plus de temps,
mais
promis, je restais pas trop longtemps.
Merci Cécile.
Je voulais vous faire cette surprise.
Merci de nous donner des nouvelles, vous savez à quel point nous sommes très sensibles. Et puis voilà, on crée des liens comme ça, et puis on aime bien savoir ce qui se passe. Donc c'est des saisons, c'est des épisodes, donc un grand merci, vraiment.
Et puis s'il y a des gens qui veulent des renseignements sur cette association, et bien qui vous appellent, et moi je peux, parce que je suis aussi l'attachée de presse de l'association.
Oui, tout à fait.
Donner des renseignements comme l'a fait l'auditrice précédente, et il n'y a pas de souci. En tout cas, merci à vous, et merci à vous Sana.
Merci Cécile, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Venez vous confier à Sana Blanger sur Europe 1.
Alors, je vous mets dans la confidence. Je ne sais pas, habituellement, on me donne au moins un prénom et un contexte. Et là, ce soir, l'équipe, après Cécile, je ne sais pas qui est en ligne.
Surprise.
Bonsoir.
Bonsoir, ma petite Sana.
Bonsoir, Manuel.
Oui. Oui, j'ai encore les effets de la deuxième injection. Je suis un peu faible, mais j'ai tenu pour vous, pour dire le meilleur de ce que je peux dire, avec le cœur, en tout cas.
Comme toujours.
J'espère que vous passerez bon mois d'août. Hein.
Eh bien oui, exceptionnellement. Là, ça faisait deux saisons que je sacrifiais, entre guillemets, mon mois d'août, mais pour être avec vous, et franchement, ça n'a pas de prix. Et là, cet été, eh bien, je vais être obligée de prendre des vacances. C'est terrible.
Ah, à la campagne ou à la mer?
Alors, manifestement, je me dirige du côté de la Normandie.
Je connais Bayeux, là-bas, à Romanche, tout
ça. Oui, absolument. Donc, le Calvados.
Oui.
Donc, voilà, je vais aller me reposer.
Vous allez être bien.
Certainement. Bon, vous vous êtes fait vacciner quand, Manuel?
Le 31, là.
Hier?
Oui.
D'accord.
Alors ça fait drôle, j'ai mal aux deux bras et puis ouf.
Aux deux bras?
Enfin surtout au bras gauche où la piqûre, mais
oui.
Et puis j'étais affaibli et puis j'avais le vertige, je sais pas, un peu dans les vapes, un peu quoi.
Oui, c'est normal. C'est normal. Qu'est-ce que vous aviez eu comme symptômes lors de la première injection? La même chose?
La première injection un peu moins. Il paraît que c'est à la deuxième qu'il y a un peu plus.
Ça dépend. Oui, ça dépend. En fait, vraiment, pour mon cas, à la première injection, j'ai eu mal au bras. Le soir, j'étais un peu fatiguée. Et puis à la deuxième, rien du tout.
Ah oui, des fois, ça dépend des gens.
Oui, absolument. Sinon, vous prenez un petit doliprane, hein, c'est ce qui est recommandé.
Ah oui.
Un petit paracétamol.
Ma petite Sana, oui, un petit doliprane, oui, la moitié, parce que je supporte pas trop le doliprane, alors j'en prends 500 mg à chaque fois.
Oui, d'accord.
Bon, Et puis là, j'ai fait une rencontre, c'est-à-dire par téléphone déjà, et puis alors, attendez, une femme qui a l'air bienveillante et chaleureuse.
Attendez, je suis debout. Attendez, là, vous venez de nous annoncer... Attendez, je suis debout, je m'assois, je vous assure. Voilà, je m'assois.
Oui.
J'ai bien entendu. Vous avez fait une rencontre?
Bah, déjà par téléphone, et puis elle est à 75 km de chez moi, à Avignon, Pascal, là, qui m'entend sûrement.
Eh ben, bisous,
elle est
Pascal.
Fidèle. Oui, elle a l'air, à sa voix, j'ai l'impression qu'elle a un énorme besoin d'affection, de tendresse. Enfin, moi, je suis gentil, alors elle a de la chance, parce que je vois bien qu'elle aussi, elle est bienveillante, chaleureuse. Elle est vraiment gentille.
Voilà, c'est bien, ça, c'est un bon début.
Bah oui. Et puis, elle veut vraiment que je vienne la voir rapidement. Il paraît qu'il faut attendre 15 jours après la deuxième injection pour être sûr.
Oui,
voilà.
Oui. Donc, vous allez vous voir?
Bah oui.
Eh bien, c'est super. Donc, Manuel,
oui,
vous nous appelez pour nous donner des nouvelles avec éventuellement donc, votre douce. Et puis, vous nous direz comment ça s'est passé.
Oui, voilà.
D'accord.
Ouais. Oui, parce que elle m'a dit, bah, comme ça, on pourra dire ce qui se passe, comme ça.
Bon.
Elle m'a dit après.
Parfait. Ok.
Bah, je suis bien content, ma petite Sana. Bah,
moi aussi, vraiment, merci infiniment de nous avoir appelés et de nous donner de vos nouvelles et surtout cette nouvelle. Je suis contente. Vraiment.
Bah, si vous êtes contente, je le suis doublement en plus.
Ah oui, vraiment. Bah, vous le savez, hein, c'est très sincère. Moi, je m'attache très vite. Je suis dans l'affect et voilà. Donc, je suis très contente.
Bah, ouais. Je suis comme vous, Sana. Ouais, je suis très, très dans l'affect. C'est pour ça que j'aime beaucoup les chansons. Parce que les poèmes qu'il a dit sont très beaux,
oui,
mais avec de la musique ou des chansons, ça doit être... Moi, j'aime déjà bien... c'était très bien, mais j'aime les chansons surtout.
Bon, ouais. Bah super. Bah, vraiment, prenez soin de vous, Manuel,
oui.
et puis à très très vite pour la suite.
Oui, petite Sana.
Je vous embrasse.
Je vous embrasse.
Eh bien, un grand merci à tous pour cette saison estivale passée en votre compagnie. Merci de votre accueil. Bravo tous les auditeurs fidèles et les nouveaux qui nous ont rejoints puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et qui se sont exprimés soit en direct, soit par SMS, soit par mail ou au téléphone. Toutes les bouteilles à la mer ont été repêchées grâce à votre générosité, grâce à votre intelligence du cœur. Une pensée particulière donc pour Maëva, Laurence, Mamie Tam Tam, Cécile, Joël, Max, Gigi, Alain, Phil, Christiane, Myriam. Vraiment un grand merci. Et puis il y a eu Gaëtan, Maud, Pierre-Marie, Marine pour leur visite au studio. C'était très sympa de vous avoir. Merci à l'équipe, à commencer par nos super réalisateurs, la douce Ilkaé, Fred Dervin, Boris, Romain et un clin d'œil à Fabrice Fougerose. Et puis à ma team, la belle Fanny, le talentueux Kelvin et le passionné Bastien, vous êtes au top. Le flash dans un instant de Yasmina Katou, vous avez tout de suite rendez-vous après avec le programme de la nuit et je vous dis, en tout cas je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une douce nuit.